voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
L'avantage des thérapies alternatives est d'accompagner des personnes dans leur globalité. Ces thérapies prennent en considération les individus de façon holistique. Elles s'adressent tant au corps qu'à l'esprit. Tous les aspects des troubles, qu'ils soient d'ordre psychologique, physiologique, psychosomatique ou environnemental, sont pris en considération par ces médecines intemporelles. Les thérapies alternatives sont naturelles. Elles permettent de diminuer la consommation de médicaments et de réduire les effets secondaires liés au traitement allopathique. Souvent, elles accompagnent le corps et l'esprit vers l'auto-guérison. La voix du Kaizen donne la parole à ces thérapeutes alternatifs qui complètent la médecine allopathique en nous permettant de soigner notre corps et parfois notre esprit. Aujourd'hui, de plus en plus de gens s'intéressent à l'être humain d'une manière globale, d'une manière holistique. On n'est plus seulement un corps physique, mais on est un corps émotionnel, spirituel et peut-être même différents corps. Donc l'idée, c'est de voir un peu les différents panels de thérapie qui existent en France pour que chacun puisse piocher dans ces différents outils d'accompagnement pour essayer de retrouver peut-être un équilibre intérieur, parce qu'on a peut-être tous quelque chose à soigner ou à guérir. Donc là, je suis avec Bruno Clavier. J'ai juste dans les mains un bouquin avec le titre « Psychanalyse transgénérationnelle ». Donc on va sans doute parler du transgénérationnel dans cette émission, mais avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais simplement, Bruno, que vous vous présentiez un petit peu, puis qu'on refasse un peu l'autre itinéraire de vie, ce qui vous a amené à développer la psychanalyse.
Cette psychanalyse-là, c'est un trajet de vie. Déjà, ce qui s'est passé, c'est que... c'est une vie un peu... Ça serait difficile de rentrer dans tous les détails. Mais disons qu'à un moment donné, moi, j'ai fait une propre thérapie avec un psychanalyste assez connu qui est décédé maintenant, qui s'appelait Didier Dumas. Et en fait, après, je suis devenu assistant de cet homme-là. Je fais des études à la fac un peu tardivement de psychologie. J'ai fait d'autres métiers avant, d'autres choses. Et puis, je me suis intéressé à la question de la famille, en fait, qui est ce qu'on appelle le transgénérationnel. C'est la façon dont on est porteur de, on va dire, des traumatismes de nos parents, de nos grands-parents, et ainsi de suite, jusqu'à plusieurs générations. Et en fait, donc je suis devenu psychanalyste d'enfants, d'adolescents et puis d'adultes. Et petit à petit, donc je me suis vraiment très intéressé au transgénérationnel. Et puis Didier Dumas est mort et il était un peu porteur de ce courant-là. Et maintenant, je suis porteur de ce courant-là un petit peu aussi, avec notamment mon livre « Les fantômes familiaux ». Puis j'en ai fait un autre plus sur la psychanalyse qui s'appelle « Les fantômes de l'analyste ». Et j'en prépare d'autres maintenant aussi, toujours aux éditions Payot. Et donc, le transgénérationnel, c'est quoi? C'est donc la façon dont on peut être porteur de nos traumatismes. Alors déjà, ça, il faut s'y entendre. Hein. C'est-à-dire, en gros, la psychanalyse dit « notre vie est déterminée par notre enfance ». Elle n'est pas toujours claire sur le pourquoi du comment. C'est-à-dire que, alors que moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'on est porteur des traumatismes de notre enfance, de toutes sortes. Le traumatisme, ça peut être les abandons, la violence, les abus sexuels, toutes les choses qui vont traumatiser notre enfance, vont nous marquer à jamais, et notamment dans les 6 premières années. Hein, donc voilà. Et la psychanalyse transgénérationnelle, elle rajoute quelque chose, elle dit qu'on est porteur de nos traumatismes et des traumatismes des autres, et très fortement des traumatismes de nos parents, qui eux sont porteurs des traumatismes des leurs, ce qui fait qu'en fait on a une grosse charge au bout, et ça veut dire qu'il faut démêler tout ça parce que quelqu'un est constitué donc de plusieurs générations, et c'est une idée très importante puisque c'est comme si à un moment donné dans la psychologie on avait pensé que l'individu était tout seul, quoi, presque comme une génération spontanée. Alors évidemment on disait qu'il avait des parents, mais la théorie a beaucoup défini l'individu comme étant un individu de désir. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est de la théorie freudienne et qui a été très développée par la théorie lacanienne. C'est-à-dire, on est des êtres de désir. Il y a quelque chose de la responsabilité personnelle qui est mis là-dedans. Et moi, je suis plus sur une psychologie de l'environnement qui est proche d'un psychanalyste appelé Winnicott, qui est très connu, un psychanalyste anglais, mais qui est l'idée que qu'on est porteur de notre environnement, finalement, et de notre famille, et de ce qui nous est arrivé. Voilà. Hein, y a un peu comme une polémique entre l'inné et l'acquis, et que moi, je pense que je suis plus du côté de l'acquis. C'est-à-dire, je pense qu'on est donc porteur de ce qui nous est arrivé.
Quand on parle de traumatisme, est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est un traumatisme ?
Alors, porteur des traumatismes, ça veut dire que déjà la vie est traumatique. On peut dire, on a parlé du traumatisme de la naissance, mais la mort, c'est un traumatisme. Enfin, pour beaucoup, c'est quand même pas simple. La maladie, la vieillesse, les accidents. Donc, que la vie soit traumatique, ça fait partie de la vie et c'est pas ça qui va être important. C'est la façon dont on a pu traverser ou pas ces traumatismes. C'est ça qui... Puisque, voilà, la vie, si vous regardez, il arrive à tout le monde des maladies, des accidents, des choses. Ce qui va être problématique, c'est les traumatismes qui n'ont pas été traversés. Soit personnels, soit justement ceux des autres. Et pas traversés, ça veut donc dire qu'on va être bloqué dessus et que ça va nous bloquer toute notre vie et que tout ce qui a été traumatique, justement, dans les au moins 6-7 premières années, va être agissant toute notre vie, je dirais jusqu'à la fin de la vie, de façon répétitive et de façon lancinante, sauf si on a pu, ce qu'on appelle travailler psychiquement dessus, c'est-à-dire traverser en fait. C'est comme quelque chose qui nous a bloqué à un certain moment de notre vie parce que c'était des traumatismes insoutenables, c'est-à-dire insoutenables à ce moment-là pour la personne qu'on était et surtout pour les enfants. Et ça va donc entraîner plein de mécanismes psychiques qu'on connaît bien, le déni, le clivage, beaucoup de choses comme ça. Et alors donc, on est porteur de ça si ça nous est arrivé, mais on peut être porteur de ceux de nos parents et grands-parents. Et quand je reçois des enfants, c'est très caractéristique, puisque je reçois des enfants des fois très jeunes, hein, jusque presque des nourrissons des fois, mais jusqu'à des fois un an, deux ans, et qui sont porteurs de troubles incroyables alors qu'il ne leur est rien arrivé. Et à ce moment-là, je les reçois avec leurs parents et je m'aperçois qu'ils sont porteurs de ce qui est arrivé, soit à leurs parents, soit parfois aux grands-parents et des fois au-dessus. Quoi.
Mais ça paraît assez incroyable, voire un peu mystique. Comment est-ce qu'un traumatisme d'un de nos parents a pu nous être transmis à la naissance ou dans cette vie ?
Eh bien, c'est ça la question. C'est que moi, je m'estime scientifique et je pense que la psychologie devrait l'être plus. C'est-à-dire que l'endroit où elle n'est pas scientifique, à mon avis, c'est l'endroit où les théories peuvent être fausses. Je pense qu'il y a certaines théories qui sont fausses. Moi, la science, c'est l'observation. Et l'observation dans le réel. C'est-à-dire que moi, j'observe. Moi, je reçois des enfants et puis j'observe ce qu'ils font. Et comme j'observe ce qu'ils font, je peux dire que moi, je suis vraiment irrité de par ma formation, mon analyse de Françoise Dolto. Donc, il y a beaucoup de relations avec ce que faisait Françoise Dolto. Et moi, quand je travaillais avec les enfants, je me suis beaucoup inspiré d'elle. Puis après, j'ai travaillé des choses qu'elle n'avait pas développées à son époque. Elle n'avait pas vraiment développé le transgénérationnel. Mais disons, c'est l'observation des symptômes des enfants et puis des guérisons. Parce que je dis qu'il y a des guérisons de symptômes d'enfants spectaculaires, notamment. Et c'est par l'observation que j'essaie de montrer à chaque fois et de façon scientifique que... on va s'apercevoir donc qu'il y a cette transmission hallucinante. Effectivement, alors on peut penser que c'est mystique, il y en a qui disent que c'est ésotérique. Moi, j'ai dit juste que c'est l'observation qui montre ça. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on redéfinisse qu'est-ce que c'est que le conscient et l'inconscient. Et ça évoque une notion qui est contestée, mais qui est admise par une partie de la psychanalyse et peut-être pas par l'autre, mais c'est l'idée de transmission d'inconscient à inconscient. C'est-à-dire que la psychologie et la psychanalyse freudienne, par exemple, a défini qu'il y avait un conscient et un inconscient, mais cet inconscient-là, on peut s'apercevoir qu'il n'est pas individuel. Alors, Jung, je ne suis pas jungien, mais Jung parlait d'un inconscient collectif. Mais il y a un inconscient familial aussi, ça vraiment, c'est ça dont je me suis aperçu, et on est donc porteur. Pour donner des exemples, parce qu'il faut donner des exemples, par exemple, c'est ce que je montre souvent quand je fais des conférences, je montre des dessins d'enfants, des choses comme ça, je montre souvent le cas d'une petite fille qui faisait les cauchemars des traumatismes de sa mère, qu'elle faisait des cauchemars toutes les nuits, elle n'arrivait pas à dormir, et ce n'était pas ce qui lui était arrivé. Elle faisait le cauchemar des traumatismes de sa mère dont sa mère ne lui avait jamais parlé. Et décrivait parfaitement dans les dessins. Hein, donc, ça veut donc dire quoi ? Ça veut donc dire qu'il y a une transmission inconsciente, d'inconscient à inconscient, entre parents et enfants, et qu'on est obligé de constater que l'inconscient ne se limite pas à la boîte crânienne, mais qu'il est beaucoup plus large dans l'espace et puis dans le temps. Ça implique plein d'autres choses, et je continue à dire que c'est scientifique, puisque ça part des observations. Alors maintenant, moi, il va falloir se pencher, j'espère tôt ou tard qu'on va se pencher pour savoir comment ça fonctionne. C'est tout. Françoise Dolto disait, les enfants sont télépathes. Moi, je vois tout le temps que les enfants sont télépathes. Tout le temps, tous les jours, à chaque fois que je reçois. Hier, j'ai un petit autiste, un enfant autiste psychotique-autiste, parce que je les distingue, puis des fois c'est un peu pareil. Mais à un moment donné, il a hurlé. Il a peur des chiens, il a une terreur des chiens, il a 7 ans. Et dès qu'il entend un chien aboyer, bon. Et puis on a vu que c'était le traumatisme de sa mère et qu'il y avait une relation avec ce que la mère a subi dans l'enfance qui était très grave. Et hier, tout d'un coup, il se met en séance à crier le nom, un nom précis qui n'appartient pas du tout à la famille, je peux pas le dire là, hein, c'est la confidentialité. Et tout d'un coup, sa mère dit, mais c'est incroyable, j'avais oublié ce nom-là, c'est le nom du chien quand j'étais petite. Voilà, et cet enfant n'a jamais entendu parler ça. Et tout d'un coup, on était en train de parler de cette histoire de chien. Donc j'ai ça tout le temps, tous les jours, tout le temps, je pourrais en citer le nombre de cas incroyables. Donc maintenant, il faut que nous élargissions notre champ. Et moi, je dis aux gens, c'est pas plus ésotérique qu'un téléphone portable. Je veux dire, amener un téléphone portable, je ne sais pas, même au XVIIIe siècle, on vous prend pour un dingue. C'est-à-dire, imaginez, vous vous transposez dans le temps, puis... Vous voyez quelqu'un qui appelle aux États-Unis en 3 secondes. Et ben c'est tout aussi mystique.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
C'est intéressant parce que dans les différentes rencontres que je fais, souvent il y a donc des courants de pensée différents avec un vocabulaire différent mais pour dire la même chose. Hier, on me parlait des mémoires cellulaires.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je continue à dire qu'il faut que ça soit scientifique, c'est que c'est rejoint par la science. Par exemple, l'épigénétique, elle est, ce qu'on appelle l'épigénétique, rejoint complètement cette idée-là. C'est-à-dire que on est tout à fait d'accord maintenant, évidemment, qu'il y a une transmission par les gènes. Bon, ça on le sait. Maintenant, l'épigénétique montre, jusqu'à un certain point, il continue à travailler là-dessus, mais qu'il y a des transmissions qui ne sont pas forcément génétiques. Épigénétique, c'est-à-dire, c'est la façon... Je pourrais pas le développer complètement, mais quelque part, c'est la façon dont on sait qu'on va transmettre, par exemple, des émotions comme la peur, comme le stress, comme des choses comme ça. C'est là où on fait des expériences vraiment précises avec des rats ou des choses comme ça, mais on l'a vu avec des humains aussi, que ça se transmet et qu'en même temps que ça se transmet, c'est-à-dire que un stress, et justement qui est un trauma, hein, c'est ça là que c'est intéressant, un traumatisme à la génération actuelle va se transmettre à la génération d'après. C'est un petit peu ça, l'épigénétique. Donc on n'est pas du côté de Darwin, là. C'est-à-dire, et en plus, jusqu'à présent, on ne trouve pas de modification dans le gène. Alors, on pense que le gène est porteur, mais on ne sait pas où. Donc les scientifiques cherchent. Et par contre, ils savent que c'est transmis. C'est-à-dire, vous envoyez par exemple un stress spécifique à des rats, et ce n'est que leurs descendants qui vont réagir à ce stress, pas les autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi les rats d'après, de la génération d'après, portent ce stress et on ne sait pas où il est ?
Mais c'est assez fascinant parce que ça laisse supposer que l'humain est bien plus complexe que ce qu'on pense et qu'on a des potentiels complètement infinis.
L'humain est beaucoup plus complexe et puis c'est ça qui est quand même un peu ahurissant parce que c'est comme si la science n'arrêtait pas de nous dire que c'est de plus en plus complexe et puis qu'à chaque fois qu'on sort un truc on dit non, bah non mais ça tient pas debout, c'est bah non, faut observer et puis c'est tout, c'est de l'observation, c'est-à-dire que je parle par exemple de la médiumnité. Eh bien, ça existe, ça fait très longtemps, même Freud, les trois grands psychanalystes des débuts des années 1900, enfin 1890-1900, ils s'accordent tous pour dire qu'ils ont observé la télépathie chez les patients, et la télépathie d'une façon incroyable. Même Freud l'écrit dans son dernier livre, qu'il y a un patient qui lui raconte tout ce qu'il a fait la veille, et il ne comprend pas pourquoi. Bon, sauf que à ce moment-là, c'est très compliqué, puisque, par exemple, Freud essaye de développer sa psychanalyse pour qu'elle ait du crédit auprès des scientifiques. Et il sait qu'il y a une célèbre réunion où il dit à Jung et puis à Ferenczi plus un mot sur cette chose-là. Parce que bah déjà qu'il a du mal à faire passer son histoire, alors si en plus il commence à parler de médium, c'est fini. Mais on n'y peut rien, c'est comme ça, ça existe. Il y a des phénomènes qui existent, et moi les enfants me le montrent tout le temps, et moi je ne peux que constater, et je m'en sers. Parce que si je ne m'en servais pas, bien il y a des endroits où ils ne pourraient pas guérir.
On va revenir à cette notion de trauma. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut guérir d'un trauma. Parce que souvent, on parlait du conscient, de l'inconscient. Donc, un trauma n'est souvent pas mis en mots. Donc, il s'agit déjà de le révéler pour pouvoir l'analyser. Et comment on parlait de le traverser, c'est ça? Enfin, comment est-ce qu'on va travailler sur un trauma?
C'est-à-dire que ou un trauma, on l'a traversé. C'est-à-dire, on l'a traversé parce que l'humain a un certain nombre de moyens. Je veux dire que je ne sais pas si on croit en Dieu ou pas, mais Dieu n'est pas sadique. C'est-à-dire, il nous a donné des moyens pour traverser les traumas, normalement. Mais il y a des traumas qu'on ne peut pas traverser, c'est-à-dire pour un certain nombre de raisons, et en particulier parce que, par exemple, c'est pour ça que chez l'enfant, c'est extrêmement important, c'est que l'enfant n'a pas les moyens physiques, psychiques, on va dire, et même neurologiques, de traverser certains traumas. C'est bien pour ça qu'on les protège tout le temps, nos enfants. Pourquoi on les protège? On les protège parce qu'on ne veut pas qu'il arrive quelque chose et que ce qui va leur arriver enfant peut leur arriver adulte, ça n'aura pas du tout les mêmes conséquences. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas les moyens. Bon. Et le trauma qu'on ne traverse pas, c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'eux. Alors, ça peut être toutes sortes. Ça peut être pour des adultes, ce qui est très classique, c'est la mort d'enfant. La mort de son enfant, pratiquement personne n'a les moyens de traverser ça. C'est inimaginable, c'est impensable. Bon, voilà. Et ça va vous faire des traumas donc non traversés, par exemple, ces choses-là. Et à partir du moment où le trauma n'est pas traversé, il va s'inscrire, c'est là que c'est intéressant, comme s'il va s'inscrire dans un temps arrêté. Le temps va s'arrêter. Et ça veut donc dire que, par exemple, la personne va faire toujours le même cauchemar, toujours toute sa vie, comme ça, tant que alors moi, c'est parce que chez moi, c'est ma méthode thérapeutique hein, que j'ai avec les enfants et avec les adultes. Et puis que je suis pas le seul, mais c'est l'idée qu'il faut revenir au point là où ça s'est arrêté pour tenter cette fois-ci de retraverser le trauma. Et donc voilà, là où on peut guérir, c'est qu'il faut déjà le retraverser. Donc déjà, il faut le déterminer, qu'est-ce qui est traumatique ou pas, qu'est-ce qui a été important. Et puis ensuite, il faut... Il y a des moyens, et la psychanalyse n'y répond pas complètement. Moi, quand j'ai des gens, je les envoie travailler ailleurs hein, aussi, d'autres choses, parce que je ne crois pas que la psychanalyse répond à tout. Ça a été une idée à un moment donné qui est fausse. Elle permet notamment de comprendre, parfois elle ne permet pas de guérir. Moi, il y a des gens que j'envoie faire de l'hypnose, de l'EMDR, de l'énergétique. Moi-même, je me soigne avec je ne sais pas combien de trucs différents, parce que... C'est exactement comme en médecine maintenant. En médecine aujourd'hui, vous avez un ORL, un spécialiste de machin, ainsi de suite. Le généraliste va régler les choses courantes, mais dès qu'on rentre dans les trucs plus pointus, il va diriger sur un spécialiste.
Donc, ce qu'on fait aussi donc, dans les thérapies alternatives, hein, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Donc on peut effectivement trouver de la complémentarité entre le MDR, l'hypnose, l'énergétique, enfin, toutes ces médecines alternatives.
Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut ouvrir le champ et que tous ces gens travaillent des choses intéressantes, la mémoire cellulaire. Voilà. Et puis très très souvent, il va y avoir comme une espèce de truc, comme il y aurait les choses sérieuses et les choses pas sérieuses. Or, évidemment, il y a des gens pas sérieux, il y a des charlatans, il y a des... Évidemment, il y a des gens qui construisent n'importe quoi, mais il y a aussi des choses très très intéressantes partout. Et c'est, faut ouvrir ça aussi à plein de champs. C'est comme si, par exemple, nous avons en Occident un grand savoir, mais il y a un grand savoir en Orient, il y a un grand savoir partout, et on a besoin de faire des échanges. C'est pour ça qu'on y va aussi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se tournent vers la médecine ayurvédique indienne, il y en a qui se tournent vers l'autre, parce que là-bas, ils ont d'autres vues, et ça se complète. Voilà, il y a toujours cette idée de fracture entre les... qui est stupide, c'est-à-dire, il faut être intelligent. Si c'est bien là-bas, bah, faut prendre ce qui est bien là-bas. Voilà, donc... et là, c'est pareil, l'intelligence, c'est l'observation, je pense que pour moi, on ne peut pas dégager la science de l'observation, de tout temps. La science est partie de l'observation. Et l'observation, c'est l'observation de ce qu'on ne comprend pas, de ce qu'on ne connaît pas, et qui nous demande de l'ouverture, qui demande à ouvrir. Il faut toujours ouvrir. Qu'est-ce qui se passe là, voilà. Donc voilà pour le côté des médecines alternatives, de la thérapie. Et en psy, c'est pareil. C'est-à-dire que au niveau de la psychologie, de la psychanalyse, il faut ouvrir pour comprendre. On peut pas enfermer. Là, après, on rentre dans le dogme. Et dès qu'on rentre dans le dogme, on se ferme. C'est fini. Mais, et là, c'est plus terrible que, par exemple, en physique, vous n'aurez pas de dogme. Pourquoi ? Parce que c'est toujours basé sur de la preuve scientifique. C'est-à-dire, il y a au moins cet avantage-là. Dans le domaine de la psychologie et de la psychanalyse, on peut plus facilement tomber dans le dogme parce qu'on va être plus dans l'ordre de la croyance, plus dans l'ordre de la philosophie ou de choses comme ça. Et c'est pour ça que moi, je suis très attaché à ce qu'on appelle la clinique. C'est-à-dire... recevoir des gens et regarder ce qui se passe et regarder comme un médecin, se dire tiens là ça va mieux et puis là ça va pas mieux, et puis c'est quand même ahurissant qu'il y ait des gens qui fassent des cures psychanalytiques et tout ça, et puis qui après des années disent ça va pas mieux. Ben alors à quoi ça sert? Il faut que ça aille mieux. Si ça va pas mieux, c'est que la méthode va pas.
On n'a pas défini ce que c'était qu'une psychanalyse.
Alors, c'est pour ça que là, je fais une sorte de psychanalyse. Je pense que j'ai été formé et j'ai fait une faculté qui était très, très psychanalytique. Et puis, par mes psychanalyses moi-même, je connais un peu pas mal la psychanalyse classique. J'applique certaines choses qui me semblent très bonnes et puis celles qui ne me semblent pas bonnes, je les applique pas et je m'en sers pas parce que je me suis aperçu qu'elles n'étaient pas bonnes. Voilà, c'est comme ça que je pense. Bon, on va dire une psychanalyse... Chacun pourra dire, ce que c'est. Je peux pas parler au nom des autres. Moi, ce que je sais, qu'est-ce que c'est pour moi une psychanalyse. Et c'est pour ça que je suis quand même attaché à la psychanalyse. C'est, on va dire, d'abord l'idée que quelque chose s'est mal passé dans l'enfance, parce que c'est pas tout le monde qui fait une psychanalyse. Il y a des millions de gens qui vont pas en psy. C'est pas pour ça que c'est des ânes. Il y a cette idée qu'il faudrait que tout le monde, non, pas forcément. Il y a des gens qui ont une enfance plutôt heureuse et plutôt tranquille. À mon avis, je ne vois pas pourquoi ils auraient vraiment besoin de faire une psychanalyse. Ou d'aller voir un psy. Pour moi, on va voir un psy parce que ça coûte cher, ça coûte du temps et de l'argent. Donc si on veut prendre du temps et de l'argent, c'est bien parce qu'il y a quelque chose à réparer quelque part. Bon, voilà. Moi je pense les choses comme ça. Et donc, qu'est-ce que c'est une psychanalyse? C'est réparer l'enfance, quelque part. C'est réparer l'enfant en nous et le réinformer. Il y a quelque chose de l'ordre de l'information. C'est-à-dire qu'il y a une information... qui n'est pas adéquate et qui fait qu'on est embêté dans la vie. Quand on va voir un psy, c'est qu'il y a quelque chose qui nous embête dans la vie qui ne marche pas. Si ça marche, il n'y a pas de raison d'aller voir un psy. Je ne vais pas voir un médecin si ça va bien.
Un médecin, c'est vrai qu'on va le voir plutôt quand on a un problème d'ordre physique. Oui. Mais quand on va voir un psy, c'est un problème d'ordre quoi ? Émotionnel ?
Oui, émotionnel, psychique et parfois physique. C'est vraiment tout ça. Mais en tout cas, ce que je pense, oui, je vais revenir à la question de qu'est-ce que ça serait la méthode. Pour moi, c'est un être humain, il est donc formé à l'intérieur de lui de deux instances principales qui sont un père et une mère, quels que soient les parents qu'il ait eus. Même à la limite, ça serait pareil pour un enfant de couple homosexuel. Il y a deux instances que je dirais de type maternel. Il y en a une de type paternel et une de type maternel. Et en général, elles sont acquises dans les 6-7 premières années, et puis elles vont être déficientes. Et pour moi, la psychanalyse, c'est quelque part l'idée de d'en refaire presque. C'est pour ça que psychanalyse, c'est le bon terme de Freud. Hein. Ça vient de analyse, c'est-à-dire décomposer. C'est comme si on décomposait, ou comme en mécanique, on décomposerait un moteur pour le remonter. Quoi. Et bien, on décompose pour remonter un peu mieux, pour que... Comment dire, il y a l'idée quand même qu'il y a un conscient et un inconscient. Et donc Freud avait, je crois que c'est là, mais moi j'ai toujours eu en tout cas, c'est celle du cavalier et du cheval. C'est-à-dire notre inconscient, il sera toujours inconscient. Il faut juste, c'est comme un cheval, il faut juste qu'il y ait une harmonie entre le chevalier et le cavalier et le cheval. Et quand quelqu'un va pas bien, c'est qu'il n'y a pas d'harmonie. C'est-à-dire il fait des choses, il ne sait pas pourquoi il les fait, et il fait des choses qui lui nuisent, et il ne sait pas pourquoi. C'est comme si son cheval l'entraîne... Vous voyez, comme vous avez un cheval qui va brouter le maïs alors qu'il ne faut pas. Voilà. Il y a un peu de ça. Et donc, il y a l'idée qu'il y a une harmonie, mais l'inconscient ne sera jamais conscient. Et l'inconscient, c'est quoi ? C'est l'enfant en nous. Parce que c'est Freud qui disait ça, l'inconscient, c'est l'infantile. C'est-à-dire, c'est l'enfant en nous qu'il faut réinformer. Si, par exemple, il a été, je vois ça beaucoup avec les enfants, rendu haineux, rendu jaloux, eh bien, il faut le réinformer, il faut lui dire... C'est-à-dire il faut presque reparler à son inconscient et lui dire mais t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'être jaloux, tu n'as pas besoin d'être envieux et ainsi de suite. Quoi. C'est une réinformation. Et c'est le fait de remettre en nous un bon père et une bonne mère pour nous-mêmes.
En y apportant donc cette dimension aussi transgénérationnelle.
Alors transgénérationnelle, c'est là que ça complexifie l'affaire, c'est qu'on est donc porteur des histoires de nos parents et de façon parfois tellement forte que je vous dis, je reçois des enfants de 1 an qui vont très très mal et tout simplement parce qu'ils sont porteurs des traumatismes souvent de leurs parents, mais ça peut aller à des générations au-dessus. Et donc à ce moment-là, il faut aller travailler ça. C'est ce qu'on appelle donc les fantômes. C'est pour ça que mon livre s'appelle Les fantômes familiaux. Un fantôme, c'est le traumatisme d'un autre qui nous hante. Hein, et ça, c'est vraiment très très intéressant à observer chez les enfants. Il suffit juste qu'ils aient l'information. Donc moi, je reçois les enfants jamais sans leurs parents, jamais seuls, jamais. Je m'y oppose jusqu'à même 12, 13 ans, je ne reçois pas jusqu'à 12 ans, on va dire. Et je ne reçois pas d'enfants seuls, quoi. Parce qu'il est complètement ce que sont ses parents. Et souvent, ils vont guérir quand les parents vont parler de leur traumatisme, de leur. De toutes leurs histoires, quoi.
Et si ce n'est pas le cas, c'est là où je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, c'est bien aussi d'être dans une complémentarité avec d'autres outils qui permettent de guérir. Et donc voilà, si la psychanalyse n'a pas d'effet positif sur un patient, ne pas se limiter à ça, mais le diriger vers d'autres formes de thérapie.
Bien sûr, c'est-à-dire que je prends par exemple justement la question du trauma. Je pense que la psychanalyse... elle est bonne jusqu'à un certain point sur la question du traumatisme. Parce que, bon, le traumatisme, il faut qu'il soit mis en mots. Mais on s'est aperçu que ça ne suffisait pas. C'est-à-dire qu'il soit mis en mots, c'est une chose. Mais il y a quelque chose qui dépasse les mots, et c'est l'émotionnel. L'émotionnel, et automatiquement, il vient toucher le physique. Tout ça, c'est lié. C'est comme. C'est assez fou de penser que ce n'est pas lié. C'est quand même bien là, à ce moment-là d'aller dans d'autres cultures où pour eux, corps et esprit sont jamais séparés. Nous, on a fait cette espèce de séparation. Et même comme si c'était deux choses qui se toucheraient même pas, alors qu'elles sont complètement l'un dans l'autre. Donc, ça veut dire que quand il y a eu un traumatisme, ça nous a amené des choses émotionnelles et que ces choses émotionnelles, elles ont besoin d'être mises en mots, c'est clair, mais elles ont besoin d'être traversées émotionnellement. C'est-à-dire... vous avez beaucoup d'exemples comme ça où les larmes ne sont pas venues et les larmes guérissent en fait quoi. Et par exemple, vous allez à un traumatisme sur un parent et c'est son enfant qui pleure. Mais ça résout pas la question parce que si l'enfant pleure pour le traumatisme de son parent, il y a pas de guérison. Il faut que le parent récupère ses larmes quoi. Par exemple, hein, c'est un exemple. Donc à ce moment-là, il y a d'autres choses, d'autres techniques qui peuvent permettre justement de compléter la psychanalyse, parfois de suppléer. On sait bien maintenant, par exemple, que quand vous avez des attentats, on n'appelle pas les psychanalystes. On appelle des gens qui font des techniques comme le MDR. Il y en a d'autres. C'est pas pour rien. On a très bien compris qu'à ce moment-là, par exemple, on dit une cellule de crise avec des psys. Évidemment, il faut parler, mais c'est pas suffisant. Ils font une sorte de déprogrammation. Hein, parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui va dépasser. Évidemment, la personne a besoin de mettre des mots, mais elle a besoin aussi d'aller voir émotionnellement ce qui lui est arrivé et d'aller déprogrammer un choc émotionnel.
Bruno, merci.
La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.